la situation économique africaine a changé. Et elle est passée de cette stabilisation nécessaire à maintenant un débat sur la croissance. Quelle croissance ? Au bénéfice de qui ? D'abord, il faut constater les progrès qui ont été réalisés. Rappeler que le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne a diminué de 10% depuis la fixation des Millennium Goals. Pour autant, en particulier l'extrême pauvreté n'a pas diminué. La situation est relativement stable sur le plan macroéconomique pour l'ensemble de ces pays. Quand on regarde le pourcentage de dette sur PIB, quand on regarde les déficits budgétaires, quand on regarde les balances commerciales, les perspectives de croissance sont bonnes. Maintenant, il faut que les pays africains et les autorités africaines déterminent de quelle manière elles veulent organiser cette croissance. Et si elles veulent faire une croissance que nous recommandons comme inclusive, qui puisse bénéficier à la plus grande partie de la population, et quels moyens elles utilisent pour ce faire. Et il nous semble que, sous ces conditions, la pauvreté peut continuer à reculer, et l'extrême pauvreté aussi, dans les pays d'Afrique subsaharienne.
Les taux de croissance des pays émergents, qui ont été très actifs en Afrique, la Chine surtout, a ralenti. Quel est l'impact probable sur l'Afrique ?
Il ne faut pas faire un roman sur la baisse du taux de croissance des pays émergents. Ce n'est pas parce que le taux de croissance de la Chine passe de 8 à 7,5% que l'ensemble des relations d'affaires entre la Chine et les pays d'Afrique subsaharienne va être gravement affecté, ni sur le plan des investissements directs, ni sur le plan des financements, ni sur le plan du commerce. Ces courants d'affaires vont continuer à être extrêmement importants pour tout ce qui est à la fois développement interne et demandes adressées aux pays d'Afrique subsaharienne.
Dans les passés, les fonds monétaires ont été accusés d'imposer des programmes avec des coûts humanitaires hauts, très élevés, en termes de chômage, d'opérations, etc. Est-ce que vous pouvez commenter ça ?
Vous savez, c'est un reproche qui était fait autrefois et qui ressemble vraiment au FMI de papa. C'est pas le FMI d'aujourd'hui. On a été quand même soucieux des conséquences des programmes qu'on avait négociés ensemble avec les autorités africaines concernées. Quand on regarde les pays qui ont été sous programme avec le FMI et qu'on les compare à ceux qui n'ont pas été sous programme avec le FMI, on s'aperçoit que les pays sous programme ont en moyenne consacré 20% de plus d'argent public à l'éducation, 40% d'argent public de plus à la santé que les pays qui n'étaient pas sous programme. Alors, les programmes sont peut-être douloureux au moment où ils s'appliquent, mais au moins ils résultent dans une bonne utilisation de l'argent public. Les regrets ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est apprendre et puis faire chaque fois mieux en tenant compte des conséquences.
Et malgré les bonnes intentions, le développement africain est toujours axé sur une croissance monoculturelle. C'est-à-dire l'agriculture, les produits pétroliers, etc. Par exemple, en Angola, 97% des exportations est basée sur le pétrole, Nigeria aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ?
Pour ceux des pays qui ont de très importantes ressources naturelles, il faut mieux les exploiter. Le deuxième impératif, c'est d'établir, en fonction de toutes les ressources, démographiques, ressources naturelles, voies de transport, infrastructures, où la diversification de l'économie fait du sens. Ce n'est pas la peine d'être obsédé par la diversification s'il n'y a pas d'infrastructure, s'il n'y a pas d'électricité pour produire. Donc il y a des pays qui ont commencé à réaliser ce genre de pratiques, qui sont par exemple l'Ouganda, la Tanzanie, qui sont dans cette voie de diversification.